Bonjour à tous. En ce début de rencontre, je souhaite vous rappeler le thème « Les religions au féminin, un combat, un engagement, une sororité ». Alors, quand Patricia m'a demandé de m'associer à cette rencontre et de l'aider à la préparer, j'ai été extrêmement enthousiaste. Enthousiaste parce qu'enfin, on considère le fait religieux comme un fait de société et que pouvoir en traiter, en parler, échanger dans un cadre public, laïque donc, me paraît tout à fait intéressant. En effet, la laïcité, on le sait, a engendré tellement de débats et est encore l'objet de tant de controverses. Au départ, on sait qu'elle s'est imposée, avec la loi de 1905, contre les religions en place et que donc elle considérait que les religions étaient réservées à l'espace privé. Les choses ont évolué. Si les pratiques religieuses sont toujours réservées à la sphère privée, le fait religieux est un fait de société. Et donc pouvoir en parler dans un cadre laïque est particulièrement réjouissant. Alors je voudrais à ce propos, vous relire la définition qu'a donnée Delphine Horviller de la laïcité, et je crois qu'elle est tout à fait intéressante et que nous sommes là dans le cœur du sujet. Alors, je vous la lis. La laïcité française n'oppose pas la loi à l'incroyance. Elle ne sépare pas ceux qui croient que Dieu veille et ceux qui croient aussi ferme qu'il est mort ou inventé. Elle n'a rien à voir avec tout cela. Elle n'est fondée ni sur la conviction que le ciel est vide, ni sur celle qu'il est habité, mais sur la défense d'une terre jamais pleine, la conscience qu'il y reste toujours une place pour une croyance qui n'est pas la nôtre. La laïcité dit que l'espace de nos vies n'est jamais saturé de convictions, et elle garantit toujours une place laissée vide de certitude. Elle empêche une foi ou une appartenance de saturer tout l'espace. À sa manière, la laïcité est une transcendance. Elle affirme qu'il existe toujours en elle un territoire plus grand que ma croyance qui peut accueillir celle d'un autre venu y respirer. Nous voilà tout à fait dans le sujet de notre rencontre, dont l'objectif est de mieux se connaître. Quand on parle de religion, il y a normalement deux acceptions sur l'étymologie de ce terme. La première vient de relégué, relire, qui veut dire relire et qui renvoie au texte, à l'interprétation du texte. Et je crois que nous verrons à quel point c'est important. Ici dans les propos qui vont être échangés. La deuxième source étymologique est religare, relier. Nous sommes bien là-dedans, dans le cadre d'une fraternité, inscrite donc sur le fronton de nos mairies, et là donc Journée internationale des droits des femmes. Quatre femmes sont là pour parler de leur façon d'être et de leur engagement de leur religion. Nous y préférerons le terme de sororité. Donc ce débat doit se faire en dehors de toute polémique, dans le respect des uns et des autres. Alors voici comment le temps de parole va être organisé. Chaque intervenante aura 10 minutes. Ensuite, il y aura un temps, un quart d'heure d'interaction entre les quatre personnes et ensuite 20 minutes de questions ouvertes au public. Alors l'ordre de passage est le suivant, nous l'avons décidé ensemble. Dans un premier temps, ce sera Fatia, puis Joël, Marie-Reine et Agnès. Voilà, bien, je vous souhaite une bonne rencontre.
Bonsoir. Merci pour votre présence. Fatia El Moumni, aumônier des hôpitaux de la région Occitanie, donc responsable des aumôneries. Je recrute, je mets en place, je structure les aumôneries sur la région Occitanie. Donc, dans mon introduction, l'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une reconnaissance en instituant l'égalité entre l'homme et la femme. en droit comme en devoir. Selon le Coran, premier fondement de l'islam, et la Sunna, deuxième fondement de l'islam, l'homme et la femme jouissent de la même dignité humaine et assument les mêmes devoirs. De plus, l'égalité des deux sexes y est mise sans cesse en évidence. Dans la sourate 9 de 71, verset 71, Dieu dit « Et les croyants et les croyantes se soutiennent mutuellement, ils commandent le bien, interdisent le mal, établissent la prière, donnent la zakat, ça veut dire l'aumône, sont dévoués à Dieu et son messager, ceux-là auront la miséricorde de Dieu. Dieu est certes puissant et juste et incarne la sagesse. » Être sociable. Dieu dit dans la sourate 49, 13, « Ô homme, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour faire connaissance. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. » L'accomplissement des bonnes œuvres. Quiconque, homme ou femme, c'est dans la sourate 16, le verset 97, « Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous les ferons vivre en bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. » Les mêmes récompenses pour l'homme et la femme. Aux croyants et aux croyantes, Dieu a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'il y demeure éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden, du séjour permanent. Et la satisfaction de Dieu est plus grande encore, et c'est l'énorme succès. Affection et miséricorde entre époux. Dans la sourate 30, le verset 21, « Et parmi ses signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en harmonie avec elles. Il a mis entre vous de l'affection et miséricorde. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. » Le constat sur le terrain. Le constat sur le terrain, le Coran est en arabe. La traduction, nous avons besoin de revoir des interprétations erronées par rapport au sens du verset, avec une lecture contextualisée, la nécessité d'impliquer les femmes dans les travaux théologiques. C'est important que les femmes maintenant s'impliquent parce qu'il y aura une vision un petit peu plus... un regard plus critique et plus juste. Le besoin d'améliorer la connaissance des religions au sein de nos sociétés pour éviter les stéréotypes, comme la rencontre de ce soir, que je remercie vraiment les représentants puis la direction de la médiathèque Jules Verne. Les DU, droit et religion, qui sont imposés, nous sommes tous les ministres de culte, ils sont l'obligation de faire ce DU qui est très bien et qui doit être élargi, ce diplôme universitaire très utile pour les ministres des cultes, pour les fonctionnaires et les agents publics. Voilà pour mon intervention.
Merci Fatia. Donc Joël.
Donc voilà, je suis... parmi le quatuor que nous représentons, je fais partie de l'Église protestante unie et je vais donc parler au nom, disons, des femmes protestantes dont je fais partie. Le protestantisme, qui est donc une des branches de la grande famille chrétienne, qui comprend les orthodoxes, les catholiques, les anglicans et toutes sortes d'autres confessions plus petites. Le protestantisme... a pour fondement, en fait, a six fondements, mais il y en a trois qui sont particulièrement adaptés à notre propos d'aujourd'hui. Le premier, c'est l'autorité de la Bible comme parole de vie et moteur de l'action éthique. Le deuxième, la liberté de conscience, dont les protestants ont fait vraiment leur cheval de bataille pendant toutes les guerres de religion. Et cette liberté permet à chacun, homme, femme, enfant, adolescent, de lire la Bible et de la méditer et de l'interpréter sans avoir besoin d'un prêtre ou de l'autorité de la tradition, par exemple. Le troisième point très important, c'est une éthique de la responsabilité envers autrui, qui est toujours digne d'amour et de respect, en réponse à l'amour gratuit de Dieu. Et cette éthique de la responsabilité nous conduit donc toujours à un engagement dans la société, dans le monde, au nom des valeurs que la Bible nous présente. Sans être une loi morale, elle nous permet de réfléchir à chaque question posée, souvent complexe, sur la meilleure façon d'agir. Alors, tout d'abord, la Bible nous offre de très beaux modèles de femmes. Dans l'Ancien Testament, malgré des textes parfois très violents et machistes qui sont en fait dans le contexte de la culture de l'époque dans laquelle ils ont été écrits, il y a des figures comme les matriarches, des prophétesses, des combattantes. Et les protestants aiment beaucoup lire l'Ancien Testament, et donc on a ces femmes-là comme modèles, comme études pour notre propre vie. Mais je pense qu'Agnès va peut-être en parler un peu plus longuement que moi. Par contre, dans le Nouveau Testament, moi j'estime que la personne de Jésus de Nazareth représente quelque chose qui n'a jamais existé avant et qui n'a jamais existé plus tard, comme maître spirituel très très proche des femmes qu'il a rencontrées. Christine Pedotti, qui est une théologienne catholique, dit que Jésus est un homme qui préférait les femmes. Non pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, puisqu'il n'a jamais eu de femme lui-même, il n'a jamais eu d'épouse ni de compagne, mais parce qu'il avait pour elle une attention mêlée de respect et d'admiration. Il les guérissait, il les relevait, il les écoutait. Parfois, il se laissait bousculer par elle et il les a eus comme disciples. Il y avait beaucoup de femmes qui le suivaient. Et la première apôtre qu'il a choisie, c'était une femme, Marie de Magdala, qu'il a envoyée à ses disciples hommes, qui eux n'ont rien compris et qui se sont précipités pour reprendre les schémas patriarcaux qu'ils connaissaient, ainsi que les successeurs d'ailleurs du Christ, jusqu'à presque le 19e siècle, hein, y compris dans les églises protestantes. Alors, voilà donc pour la Bible. La place des femmes au sein des églises protestantes. Nous avons eu la chance, nous les filles, grâce à ces principes fondateurs de liberté, de conscience et de lecture personnelle et d'interprétation de la Bible, d'avoir été incitées à lire autant que les garçons. Les écoles primaires, les écoles secondaires furent mixtes très tôt, dès les premiers temps de la réforme, en Allemagne, aux Pays-Bas, enfin dans les pays à majorité protestante, sans pour autant entamer quand même la domination masculine. Hein. Nous avons dû nous battre tout autant que les autres pour progressivement trouver une place juste au sein de nos communautés et faire entendre notre parole. Alors qu'avant, nous étions interdits de parole dans les assemblées. Hein, il y a des textes comme ça chez Paul qui sont quand même très... voilà. Alors, il y a toujours eu, depuis la réforme, des prédicatrices et des enseignantes dans certains courants du protestantisme. Mais c'est seulement à la fin du XIXe siècle que l'émancipation des femmes protestantes a suivi le mouvement amorcé par les suffragettes londoniennes, qui sont d'ailleurs d'obédience protestante la plupart, hein, ou anglicane en tout cas, et les féministes américaines aussi. En France, les femmes ont eu le droit de vote dans les églises dès 1905. Mais c'est en 1929 qu'officiellement la première femme pasteur, Madeleine Blocher-Saillant, a été ordonnée. Et aujourd'hui, elle représente à peu près 15 à 50% des effectifs du corps pastoral selon les pays. C'est donc quelque chose qui est vraiment important pour nous. Alors, le troisième point, c'est l'engagement éthique des femmes protestantes. Et en tant que résistante ou créatrice d'institutions ou d'associations caritatives, ça c'est partagé avec les autres confessions chrétiennes et avec les religions qui toutes insistent sur la compassion, la paix, la justice voulue par Dieu pour le monde. Dans le protestantisme, je pense par exemple à Marie Durand, qui a été faite prisonnière par les dragons du roi Louis XIV et qui a vécu 35 ans enfermée à la tour de Constance. Vous pouvez voir sur la margelle du puits, quand vous visitez la tour à Aigues-Mortes, le mot « résister ». Résister, c'était pour elle être en accord avec sa foi. Je pense aussi à Bertie Albrecht, qui est une grande résistante pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est enterrée au Mont Valérien. Je pense aussi à Magda Trocmé, qui, aux côtés de son mari, a sauvé un grand nombre d'enfants juifs au Chambon-sur-Lignon. Je pense aussi à Madeleine Barreau, qui a été créatrice de la CIMAD, dont vous avez sûrement entendu parler aujourd'hui, s'occupant des réfugiés et des personnes déplacées. Je salue aussi nos contemporaines engagées en politique. Vous vous rappelez peut-être de Georgina Dufoy, ministre de la Santé, de Catherine Trottmann, ministre de la Culture, et de notre amie Christine Lazerge, qui était donc de Montpellier et qui a été vice-présidente de l'Assemblée nationale et présidente de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Plus spécifique au protestantisme, l'engagement en faveur du droit des femmes a accompagné très tôt les évolutions de la société civile. Citons par exemple Antoinette Butte, qui avec un groupe de pionnières crée en 1912 le scoutisme féminin interconfessionnel. Et ce scoutisme féminin formera une foule de femmes engagées dans les divers combats de l'époque. En particulier Suzette Duflo et Francine Dumas, et puis Simone If, qui sont fondatrices du mouvement Jeunes Femmes. Peut-être vous n'en avez pas entendu parler, mais ça a été un mouvement féministe protestant qui, dès les années 50-60, a été un défenseur très actif du droit des femmes. Il y a eu aussi Evelyne Sullereau, qui a fondé avec Madame Lagroix Veilaillier et Catherine Dolfus, deux femmes juives, de confession juive, la maternité heureuse, qui est l'ancêtre du planning familial. Et dans le planning familial, il y a eu la moitié de protestantes dans le conseil d'administration. Donc vraiment, c'était un engagement très protestant, cette idée de la contraception et de la liberté de choisir le nombre d'enfants que nous voulions. Et à Montpellier, je rends hommage à Christiane Delteil, que vous connaissez peut-être, et à Aline Fauchère, qui ont créé le CIDF, c'est-à-dire le Centre d'information du droit des femmes, qui se trouve à Montpellier et qui est un endroit... voilà. Et j'en ai oublié beaucoup d'autres. La conclusion, c'est que ces vies quasi légendaires hein, pour moi, ont inspiré mes propres engagements au service des femmes et des enfants, d'abord en Afrique et puis ensuite au CHU de Montpellier, où je me suis occupée de toute une cohorte de femmes et d'enfants victimes de l'infection à VIH-SIDA pendant des années. En tant que pédiatre, oui, en tant que pédiatre. Et ces femmes, ces modèles de femmes, m'ont accompagnée, m'ont précédée comme autant de grandes sœurs, comme des amies envers lesquelles je suis reconnaissante de tout ce que ma vie a comporté de beau et de profond. Et elles forment, je crois, des maillons d'une chaîne de solidarité et de fraternité, de sororité que j'ai pu nouer avec tous les autres, femmes et hommes, qui partagent avec moi les mêmes valeurs et les mêmes engagements. Et j'espère que cette chaîne, les jeunes femmes et les hommes d'aujourd'hui vont la consolider et vont la développer. Voilà, je vous remercie.
Merci Joëlle. Donc Marie-Reine, tu veux venir là?
Oui, parce que on entend mieux debout et on parle plus fort quand on est debout.
C'est vrai.
Alors, je suis Marie-Reine Mezzaroba. Donc je suis engagée dans l'Église catholique romaine. Je ne parle qu'en mon nom. Je ne représente pas cette église, ni les femmes de cette église. C'est un témoignage personnel. C'est le témoignage d'un parcours de vie, de croyante, de femme. Mais je ne représente pas. Les femmes dans l'église catholique sont très différentes les unes des autres, les courants aussi. Enfin, donc ce n'est pas possible. Donc je suis née dans une famille catholique. Et au départ, ma religion était pour moi une morale. Une invitation à prendre soin d'autrui. J'avais retenu globalement « aime ton prochain comme toi-même ». Voilà, ça s'arrêtait en gros là. Et je suis devenue assistante sociale. C'était logique. Puis, j'ai eu la chance de bénéficier des possibilités de formation biblique qui ont été offertes à tout le monde dans l'Église catholique après le Concile Vatican II. Donc c'est quand même relativement récent, par rapport à maintenant, non, mais... Et c'est par le travail rigoureux des textes bibliques que j'ai commencé à entendre la parole de liberté et de vie adressée par ces textes et par les gens qui les portent et qui les commentent sur les textes bibliques. Donc, adressé à l'humanité, une parole qui s'adressait à nous pour nous aider à vivre. J'ai quitté mon métier pour pouvoir continuer à travailler sur les textes bibliques. C'est-à-dire que j'ai pris une passion pour comprendre et pour écouter cette parole de libération, parce que j'étais quand même dans un carcan assez moral. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, je suis devenue laïque en mission ecclésiale, envoyée par l'évêque en tant qu'aumônier d'hôpital. Dans un premier temps, c'était accompagner les personnes. Je voulais tester si cette parole tenait le coup dans les situations de détresse. Et donc j'ai fait ça. Et ensuite, je suis devenue formatrice en théologie pour les laïcs. Alors je précise que le mot laïque vient d'un mot grec qui veut dire peuple et que ce qualificatif laïque différencie dans l'Église catholique les personnes qui ont été ordonnées au sacerdoce, donc les prêtres, de tous les autres membres du peuple croyant, qu'elles soient religieuses ou quoi que ce soit. Il y a une différence fondamentale entre les clercs et les laïcs. L'âge venant, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça n'est plus tant de faire des choses, parce que ma religion d'origine, c'était faire, mais plutôt apprendre à devenir humaine. Alors, c'est aussi en vieillissant. À être plus présente, plus présente. D'autres sont arrivés par d'autres voies. Pour moi, je dois dire, c'est passé par là. C'est-à-dire, ça passe par les textes, par la foi, par le Christ. Enfin, c'est mon chemin. Je dirais qu'avec mes consoeurs de cette table ronde, je partage un élément essentiel. Toutes les quatre, nous vivons dans la reconnaissance d'une altérité radicale. Il n'y a pas que les gens qui sont croyants, qui sont religieux dans la religion, qui peuvent reconnaître une altérité, une transcendance qu'on nomme ou qu'on nomme pas, dont on sait ce mais qui, en tout cas, c'est pas référé à moi. Il y a autre chose, une transcendance qui fonde le monde et l'existence de chacun. Avec Agnès et avec Joël, je partage un second élément essentiel. Nous nous référons toutes les trois aux mêmes écritures, en tout cas pour l'Ancien Testament, et avec Joël pour le Nouveau aussi. Donc je ne vais pas redire ce qu'a dit Joël de la place des femmes dans les Écritures, mais si elle ne l'avait pas dit, je l'aurais fait, parce que c'est décisif. C'est-à-dire la place qu'elles occupent dans les Écritures, ça serait un travail considérable à faire. Si la Bible a été écrite dans une culture patriarcale et en porte très nettement les traces, son texte conteste la prétention des cultures à dire qui nous sommes réellement, à enfermer les hommes comme les femmes dans des rôles sociaux. Ce texte, pour ceux qui l'accueillent, non pas comme une lettre figée ayant un sens univoque, mais comme une parole adressée, toujours à interpréter aujourd'hui, ce texte est un ferment permanent de liberté, à condition bien sûr d'être interprété. Il nous désinstalle sans cesse de ce que nous croyons être, de ce que nous pensons de nous-mêmes ou des autres, et même de ce que nous pensons de Dieu. Dans le récit de la Genèse, il est écrit que l'humain est créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à l'image de celui qui n'a pas d'image, et duquel il est interdit de faire une image. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous enfermer dans les représentations que nous avons de nous-mêmes ou enfermer les autres dans les représentations que nous avons d'eux. Selon nos textes fondateurs, tout humain échappe à la représentation que nous avons de lui. Il est autre, toujours en devenir, allant devenant dans le génie de son sexe, comme le disait Françoise Dolto. Alors je ne peux pas nier le combat féministe dont parlait Joël, grâce auquel j'ai pu me former en théologie et qui me permet d'être aujourd'hui en train de parler publiquement à cette table au lieu de me cantonner au service de la famille ou de la paroisse dans la discrétion recommandée aux femmes dans le monde religieux et culturel dans lequel je suis née. C'était comme ça hein, quand j'étais petite. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris dans ma famille, dans mon petit monde. Mais je déplore la guerre des sexes dans laquelle nous nous enfermons souvent. Il s'agit alors de dominer l'autre. Or, il n'est pas plus intéressant que les femmes dominent les hommes que l'inverse. Il n'est d'aucun intérêt non plus que nous devenions tous les mêmes. Des clones en quelque sorte, pour mettre fin à la souffrance de la jalousie, jalousie qui rend insupportable que l'autre ait quelque chose que je n'ai pas. Et ça commence dès la Genèse. Hein. Il y a une différence et ça commence déjà. Et ça commence par la différence sexuelle. Le premier constat, c'est qu'on n'est pas fait pareil. La Bible nous appelle à la rencontre, à l'alliance entre hommes et femmes, pas à la guerre ni à la domination. Et par conséquent, elle nous appelle, je ne dis pas qu'on le fait toujours, elle nous appelle au respect de toutes les autres différences de culture, d'histoire, de personnes. Alors tous ceux qui connaissent l'Église catholique savent que le clergé, donc prêtre, évêque, pape, est uniquement masculin, et qu'apparemment, il n'est pas à l'ordre du jour que ça change. Même si certains et certaines luttent de différentes manières pour le changement. Il n'y a pas de fondement théologique, à mon avis, à cette situation de ne pas laisser accès aux femmes au sacerdoce. Mais bon, c'est comme ça. Des responsabilités importantes peuvent être confiées aux femmes. La catéchèse, l'enseignement, la responsabilité de services pastoraux sont des choses très très importantes, mais elles ne peuvent pas poser certains actes centraux du culte catholique. Et en dehors du baptême en cas d'urgence, elles ne peuvent donc donner aucun sacrement, donc qui sont des actes centraux. Elles commencent petit à petit, en nombre réduit, à être invitées à participer aux instances dans lesquelles sont prises les décisions de l'Église catholique, les décisions qui concernent la vie de l'Église. On a le droit d'être prof de théologie, mais il n'est pas trop question qu'on prêche dans les paroisses. C'est très bizarre. Vous pouvez enseigner les prêtres, vous pouvez leur apprendre à lire la Bible, mais vous ne pouvez pas prêcher dans votre paroisse. Bon, c'est comme ça. Elles commencent à rentrer dans les instances de décision, mais là aussi, elles sont menacées, aussi menacées que les hommes, de prendre le pouvoir en prétendant servir. Ni plus ni moins. Je veux dire, c'est, il faut se méfier de ça dans nos, pour nous. Mais en revanche, dans un conseil, même si on n'a pas beaucoup de pouvoir, si on a le droit d'être là, on peut être écouté. Et c'est jamais interdit de parler et de dire quelque chose. Et la parole fait son chemin, même quand on n'a pas le droit de vote ou le pouvoir de décision. La parole fait son chemin. La Bible le montre très bien dans les rapports hommes-femmes. C'est sur le chemin. Alors, je vous fais part de mon cheminement personnel par rapport à ces questions. En premier lieu, prise dans ma culture familiale et sociale, j'ai intégré la différence claire et laïque, bien au-delà de la réalité objective. Au laïque de travailler à rendre le monde plus humain, au clair appartenait le monde spirituel, l'annonce de l'Évangile. Et ma nomination comme aumônier d'hôpital, c'était dans les années 90, a évidemment changé cette perception. Je découvrais qu'une femme pouvait avoir une responsabilité pastorale, c'est-à-dire prendre soin des gens, les enseigner, les aider, enfin, ce que j'avais jamais imaginé. Moi, je pensais que les femmes, il fallait qu'elles soient bonnes et au service, mais pas qu'elles pouvaient enseigner ou accompagner pastoralement. Cependant, ce que j'avais perçu dans la jalousie qui était la mienne, comme une disqualification des femmes, a eu des effets. Le premier effet, ça a été de m'enfermer dans une attitude revendicative devant cette injustice. Et le second, bien pire, de m'enfermer dans une sorte de mutisme, comme si je n'étais pas, comme tout humain, appelé à être un être de parole, qui ose parler et s'engager dans ce qu'il dit. C'est mon chemin de foi, paradoxalement, au sein même de cette Église, qui m'a permis d'évoluer. La Bible, bien qu'écrite dans un contexte patriarcal, atteste de l'importance de la rencontre homme-femme dans la parole, et cela dès le Premier Testament. Que l'on soit homme ou femme, nous sommes tous appelés à écouter et à parler. Nous ne vivons jamais sans nos cultures, sans nos rôles sociaux, qui, s'ils évoluent, ne font que se modifier sans changer vraiment de nature et ne disent jamais rien de l'être réel, du mystère de l'identité véritable de chacun. Grâce à la rencontre avec d'autres femmes, comme ce soir, engagées dans leurs églises ou dans leur religion propre, j'ai été conduite, je dirais par elles, à reconnaître que rien ne m'autorise à ne pas prendre la parole dans un échange avec d'autres, si ce n'est le mensonge et la jalousie. Rien ne m'autorise à ne pas m'engager réellement dans l'existence, dans la société, dans mon église, et à me tenir en retrait bien sage. Aujourd'hui, je dois dire que, bon, à l'âge que j'ai aussi, faire évoluer les structures de l'Église catholique ne m'intéresse plus. Ça m'a longtemps tracassé, je dirais, c'est fini. Elles évolueront forcément, c'est le mouvement même de la vie. Mais les questions essentielles resteront les mêmes. On aura beau changer les structures, nous restons les mêmes intérieurement, en tant qu'humains. Qu'en est-il de notre goût du pouvoir, que nous soyons hommes ou femmes? Et quand je parle du pouvoir, je n'en parle pas là au sens positif, au sens créatif, mais du pouvoir qui cherche à dominer sur l'autre. Comment naître à la vie, à la parole, à la liberté d'accueillir l'autre au lieu de se sentir menacé? De le jalouser, le soumettre ou se soumettre? La Bible nous révèle que chacun, chacune est appelé à la vie dans une radicale égalité de sujet, dans la différence des sexes et de toutes les différences particulières. Il n'y a pas d'accès à l'universel sans la reconnaissance de nos appartenances particulières, du singulier et même de l'unique. Alors, est-ce que j'arriverai un jour à répondre à cette invitation d'oser parler ? D'oser parler en vérité et en simplicité, ou bien est-ce que j'arriverai à un jour réellement croire que je n'ai pas besoin de me faire apparaître moi-même, de faire ma place dans le monde, ou au contraire de m'effacer? Je pose la question pour moi-même, Mais il est certain que nos conflits de pouvoir tiennent à la quête éperdue de chacun pour être enfin reconnu comme digne de vivre et respectable. Comme si nous n'étions pas chacune et chacun dignes de vivre et respectables de toute éternité. Si j'étais réellement chrétienne, j'en aurais fini avec cette revendication, puisque le Dieu de la révélation chrétienne appelle chacune et chacun à naître et à vivre du don de vie qu'il lui fait. Mon chemin de femme engagée dans l'Église catholique a donc pour cœur ma propre conversion, pour me permettre de devenir une, singulière, unique, parmi les autres, tout aussi unique et précieux que moi, parce que chacun de nous est un être unique et irremplaçable.